RCF.
Depuis environ 10 siècles, la règle et la vie bénédictine ont structuré la vie de milliers de moines et de moniales à travers le monde et notamment à travers l'Europe. C'est l'histoire de cette vie bénédictine et de la règle qui la structure que nous allons évoquer dans ces entretiens avec vous, Daniel Audon-Hurel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, plus précisément au laboratoire d'études sur les monothéismes. Vous êtes spécialiste de l'histoire du monachisme et de la règle de Saint-Benoît. Et votre spécialité, disons encore plus précise, c'est la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle. Quelles sont les sources dont on dispose quand on parle de Saint-Benoît, qui est le fondateur de la règle bénédictine et de cet ordre qu'on va évoquer? Les sources sont-elles nombreuses?
Alors c'est un paradoxe, c'est-à-dire que nous n'avons que très très peu de choses concernant la vie de Saint-Benoît. On a une seule source, une unique source, qui est le livre 2 des dialogues de Grégoire le Grand, donc écrit à la toute fin du VIe siècle, c'est-à-dire à peu près un demi-siècle après la mort de Saint-Benoît. Donc on a très très peu de choses, et en plus c'est un texte hagiographique qui répond aussi à un certain modèle d'écriture. On y trouve des miracles, on y trouve un itinéraire de vie que l'on retrouve parfois, partiellement, dans d'autres vies de saints moines que Grégoire le Grand évoque dans d'autres textes. Et ce texte-là juste mentionne que Benoît a écrit une règle. On a effectivement très très peu de choses.
Donc pour les historiens, c'est un handicap qu'il faut surmonter d'une manière ou d'une autre en tenant compte de ce texte et en même temps en le prenant pour ce qu'il est.
Voilà, on le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne va pas, à partir de là, dire que mot à mot, la vie de Saint-Benoît, c'est ça. Par contre, on ne peut être que sensible au fait que le livre des dialogues de Grégoire le Grand, il y a des successions de petites vies de moines, et puis tout d'un coup, il y a le livre 2 consacré exclusivement à Benoît. On peut penser que là, Benoît, effectivement, a une importance tout à fait capitale aux yeux de Grégoire le Grand.
Est-ce qu'il y a des incohérences ou finalement on arrive à retracer quand même un itinéraire qui se tient?
Ah non, on arrive à retracer un itinéraire qui se tient parce qu'il y a des événements racontés par Grégoire le Grand qui font allusion à des faits historiques, à des personnages
dont l'existence est attestée.
Donc on a vraiment quelques points de repère qui, à mon sens, constituent bien la preuve que Benoît existait, même si certains chercheurs, certaines études ont pu en douter à un moment. Comme on peut douter aussi que la règle était bien de lui. Voilà. Mais les travaux les plus récents, et en particulier ceux d'un très grand commentateur bénédictin qui s'appelle Adalbert de Voguet,
ces
travaux contemporains, bien sûr, morts il y a quelques années, ont bien montré évidemment la réalité de Benoît, la réalité de la paternité de la règle. Voilà.
Une autre chose pour finir sur cette question-là, est-ce qu'il existe des représentations iconographiques de Saint-Benoît qui auraient été réalisées de son vivant?
Non.
Non plus.
On a évidemment une iconographie de Saint-Benoît qui a donné lieu à de très beaux livres, à de très belles fresques. En particulier, l'Italie a beaucoup représenté Benoît, le cycle de la vie de Benoît dans des fresques à la fin du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne. On a beaucoup de choses, mais évidemment, on n'a pas. Ce qui est important aussi, pour terminer, c'est que sur cette origine-là, c'est que Benoît ne s'est pas réveillé en disant « je vais fonder un ordre ». Voilà.
C'est tout un processus.
C'est tout un processus.
Alors qu'est-ce qu'on sait de lui, ne serait-ce qu'en termes de date, par exemple?
Benoît, il est né aux alentours de 480 et il est mort aux alentours de 547. Certains disent 550, d'autres 500. On n'a pas de date précise quant à son décès.
Sixième siècle, en tout cas.
Voilà, c'est-à-dire la première moitié du VIe, et il était né dans une famille aisée de Nursie. Il a été envoyé à Rome pour faire ses études. Grégoire explique qu'à Rome, il a voulu finalement quitter Rome et partir à la recherche d'un absolu, d'autre chose. Il est parti avec...
Fuyant les mondanités de la ville.
Fuyant les mondanités, voilà. Il est parti avec sa nourrice. Et puis, il a laissé tomber sa gouvernante aussi. Il est parti dans une grotte. D'abord, à Subiaco, où il est resté plusieurs années et où il a à deux reprises, en fait, créé des communautés religieuses, retrouvé des communautés religieuses et finalement fondé le Mont Cassin et tout est parti de là.
Qu'est-ce que c'est que le Mont Cassin ?
Le Mont Cassin est cette abbaye qui est devenue un petit peu le sanctuaire de la tradition bénédictine, qui était au départ ce monastère que Benoît avait fondé, dans lequel il a sans doute mis à profit son expérience d'abord d'ermite, puis de responsable de communauté monastique. C'est sans doute là qu'il a mis au point une partie, évidemment, de la règle. Et tous les grands bénédictins, après, se réfèrent au Mont Cassin.
Lui s'inscrit déjà dans une, certes, jeune tradition, mais tradition quand même, sur le plan monastique.
Il s'insère dans une tradition qu'il considère pas forcément comme jeune, enfin... Je pense, la règle est construite à partir de multiples lectures. Et là, on voit que Benoît est un très grand lecteur. D'abord de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien sûr, et des évangiles en particulier, et ensuite d'une tradition monastique. Il rencontre des moines dans cette région-là. Il y a déjà des moines en France à l'époque. Bon, il ne les rencontre pas, cela évidemment, mais c'est pour vous dire, le monachisme ne naît pas avec saint Benoît.
Et Saint Martin de Tours l'a précédé,
exactement,
par exemple.
Exactement, voilà, saint Martin de Tours. Donc, il lit Cassien, il lit
Les Pères du désert,
oui, il lit Augustin, il lit Basile. Il s'imprègne de cette tradition orientale du monachisme essentiellement. Et puis, il encourage ses moines à lire sa règle. Il ne dit pas que sa règle est la base et l'aboutissement d'un processus. C'est une école. La vie monastique est une école. Ce sont des moyens.
Elle s'inscrit, on l'a dit, dans une tradition, qu'il s'appuie sur des choses déjà existantes. En quoi est-ce qu'elle est si originale, cette règle ?
Alors, ça c'est peut-être assez personnel. Je pense qu'objectivement, elle est originale parce qu'elle est extrêmement équilibrée.
Entre quoi et quoi ?
Entre le but de la vie monastique, les moyens qui sont accordés pour y parvenir, et l'attention à la fois au fonctionnement collectif, et à l'individu, et le rôle finalement de l'abbé qui doit être toujours très soucieux de chaque individu moine à l'intérieur d'un ensemble communautaire qui doit vivre selon des règles extrêmement organisées comme toute communauté.
Est-ce qu'on peut dire que la règle et puis la vie monastique selon saint Benoît ressemble un peu à une vie de famille avec un père ?
Oui, oui.
L'abbé.
Oui, tout à fait. On peut faire ça. Et puisque nous sommes à Pradines, sur le site de l'abbaye de Pradines, les moniales présentent leur organisation comme dans toute famille. Chacun a à faire des choses. Voilà. La seule chose, c'est que dans une famille lambda, on va dire, tout n'est pas forcément prière ou manifestation de la prière ou quelque chose de cet ordre-là, tandis que dans la vie monastique, tout est tourné autour de la prière, c'est-à-dire le travail comme la prière sont un petit peu servent le même but.
Disons que la colonne vertébrale, le squelette, c'est la prière, c'est l'office. Et le travail et la vie, le reste de la vie s'organise en fonction de tout ça.
Il y a une idée de prière continuelle qui est nourrie d'un certain nombre de choses, qui est à la fois le travail et la prière, et la vie fraternelle avec ses frères, et l'organisation de la vie du monastère lui-même.
Vous disiez que cette règle, elle est particulièrement équilibrée. Est-ce que ça signifie que les autres, celles qui l'ont précédée, l'étaient moins, ou s'organiser de manière beaucoup plus stricte, beaucoup plus radicale et rigoureuse autour de la vie érémitique, de l'ascèse, peut-être même des mortifications, on en parle souvent.
Alors, il faudrait les reprendre toutes. Sans jugement de valeur, bien sûr. Elle est certainement, par rapport à d'autres, par exemple, elle est très équilibrée aussi dans sa taille. Et par exemple, la règle du maître, dont Benoît sans doute effectivement s'est inspiré, peut s'étendre plus sur un certain nombre de domaines. La règle de saint Benoît elle est le fruit d'une véritable expérience, je dirais, une véritable expérience à la fois de lecture et surtout de vie. Et c'est ce qui lui donne ce côté pérenne, enfin, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les siècles sans difficulté.
Alors justement, elle a traversé les siècles. Comment expliquer qu'elle n'ait pas été perdue ? Parce qu'après tout, depuis le VIe siècle, d'autres règles ont certainement vu le jour. Et puis finalement, ont disparu avec celui qui l'a rédigé et les quelques personnes qui ont essayé de la vivre.
C'est effectivement une vraie question, évidemment, historique, tout simplement. C'est que la règle s'incarne dans des hommes, dans des périodes données. Elle a rencontré, après la mort de Benoît, des pouvoirs, à la fois religieux et politiques, qui ont considéré qu'elle pouvait être un des modèles de la vie monastique en communauté, cénobitique. Et elle doit son succès, finalement, assez largement à ses qualités, évidemment, au fait qu'elle puisse être adaptée à peu près à tous les lieux et les temps, mais en même temps au fait que des pouvoirs politiques, pontificales d'une certaine façon, je veux dire, si Grégoire le Grand insiste tant sur Benoît, c'est qu'il a ses raisons. Si ensuite, et c'est surtout le cas, les Carolingiens, et en particulier Charlemagne, et ensuite Benoît d'Agnan, décident finalement que c'est la règle qui doit être adoptée, le poids du politique lui donne une place tout à fait prédominante et elle efface, mais par ordre quasiment, elle est imposée et elle efface peu à peu les autres règles qui parfois un monastère pouvait vivre à la fois avec des bouts de règles de Saint-Benoît puis des bouts de Saint-Colomban et puis tout ça se mélangeait. C'était pas autant structuré qu'on peut l'imaginer. Du coup, elle se diffuse énormément, elle devient le modèle. Oui.
À quelle période donc là ?
On est au début du 9e siècle, autour de 816-817 essentiellement, avec ces fameux conciles d'Aix-la-Chapelle et Benoît d'Agnan qui construisent en fait ce monachisme bénédictin qui n'est toujours pas un ordre.
Daniel Audon-Hurel, vous nous disiez donc que à partir, disons, du 9e siècle, la règle de Saint-Benoît est imposée, en quelque sorte, aux congrégations, en tout cas aux monastères. Il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Congrégation, c'est un terme qui signifie autre chose, on y viendra. Donc elle est imposée pour des raisons à la fois religieuses mais aussi politiques. De quelle façon ça s'organise, justement ? Vous disiez qu'il ne s'agissait pas encore d'un ordre. À quel moment ça devient un ordre et qu'est-ce que c'est qu'un ordre ?
C'est vrai que les monastères sont, par définition, et la règle de Saint-Benoît l'indique bien, la vie monastique cénobitique, c'est une communauté avec une règle sous la responsabilité d'un abbé.
Cénobitique, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que ça signifie.
C'est le contraire de l'érémitisme. L'érémitisme, on vit tout seul. Et le cénobitisme, on vit en groupe. Voilà. Donc la vie monastique collective, enfin en groupe. Quoi.
Communautaire,
merci. Et donc la règle, elle est faite pour un monastère. Elle n'est pas faite pour réunir une multiplicité de monastères, même si on arrive à l'interpréter dans ce sens-là. Mais à la base, ça reste quand même plutôt...
Pour une entité.
Une entité. Et ça, très rapidement, les monastères sont indépendants. Ils peuvent être en réseau les uns avec les autres, mais des réseaux de sociabilité religieuse, d'intérêt, de proximité spirituelle, parce que un abbé ou un fondateur va aller d'un endroit à un autre. Voilà. Mais on reste, avant Cluny, on reste devant des monastères plutôt indépendants, mis en réseau parfois, mais sans structure qui les rassemble.
Et alors, qu'est-ce que ça change à partir du moment où Cluny voit
Cluny,
le jour ?
Cluny, évidemment, c'est tout à fait exceptionnel parce que Cluny va commencer à structurer ce monachisme, ce qui fait qu'on va pouvoir appeler monachisme clunisien, où on va aller, au bout d'un siècle ou deux, on va arriver jusqu'à au terme de l'ordre de Cluny, qui pose un problème parce que ça va prendre une telle diffusion politico-religieuse que finalement, on va oublier qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'autour de Cluny, au Xe, XIe siècle, et avant l'apparition de Cîteaux, il y a aussi le Bec et Loing, il y a aussi Corse, il y a aussi Brogne, il y a aussi en Angleterre, il y a aussi d'autres monastères qui ne sont pas forcément directement dans l'orbite clunisienne, qui existent et qui ont leur vie et leur richesse.
Et qui sont mis à part, du coup ?
Et non, c'est plutôt, je dirais, notre culture, notre histoire, progressivement, qui privilégie toujours les plus gros et les plus importants. Au risque d'oublier les autres. Donc, il y a l'abbé de Cluny, et puis il y a des liens parce que d'autres monastères vont utiliser les mêmes coutumes que Cluny. Il y a peu à peu des chapitres généraux qui vont s'instituer, qui vont commencer à structurer la famille clunisienne en un ordre.
Mais alors, cette abbaye de Cluny, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est amusant parce que quand on visite Cluny, on parle du Cluny médiéval et on voit un bâtiment du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on a oublié ce qu'était Cluny, donc le mythe est d'autant plus fort qu'on a plus la trace de cette abbatiale, en particulier absolument gigantesque, de Cluny. Alors à partir de là, Cluny devient le lieu où s'organise une grande communauté monastique importante avec...
En Bourgogne.
En Bourgogne, bien sûr, avec un office divin très mis en valeur, ce qui est tout à fait conforme à la règle d'ailleurs, où le nombre de moines fait qu'il est possible finalement de le rendre de plus en plus important. On peut... parce que ça sera, c'est un peu le contraste avec Cîteaux quelque part. On dit qu'il y a un petit peu l'oubli, peut-être pas l'oubli, mais on insiste moins sur la notion de travail manuel et on est sans doute déjà un petit peu plus vers ce qu'on appellera plusieurs siècles après l'étude et le travail plutôt intellectuel.
RCF, la suite de l'histoire.
Qu'est-ce qui explique l'expansion phénoménale de Cluny ?
Essentiellement des phénomènes politiques, certes, et une proximité avec Rome, c'est l'affirmation de l'exemption monastique, c'est-à-dire on veut échapper un petit peu aux structures diocésaines en se constituant directement rattaché à Rome.
Avec plus de liberté.
Plus de liberté et donc plus de pouvoir dans les communautés elles-mêmes, évidemment.
Y compris celui d'élire l'abbé, qui n'est plus nommé par qui que ce soit, mais qui est élu par ses propres moines.
Qui est élu par ses propres moines, ce qui devait être déjà le cas, au sens bénédictin du terme, puisque la règle évoque bien cette question du choix de l'abbé et de l'abbatiat plutôt perpétuel que périodique, ce qui va être aussi une transformation, mais plus tard, de l'époque moderne.
Donc les moines élisaient leur abbé, et ces abbés de Cluny, pour la plupart, sont quand même des figures assez exceptionnelles, non ? C'est peut-être aussi ce qui explique
cet essor. Voilà, Cluny a une chance étonnante, c'est qu'elle a eu la succession de ses premiers abbés, Odon, Mailleul, Odilon et Hugues, nous mène du début du Xe siècle au XIIe siècle. Ce qui fait une longévité abbatiale. Et la longévité abbatiale est effectivement propice au développement et à la construction d'une famille solide.
Parce qu'il y a quelque chose de stable, parce que ces abbés ont le temps d'imposer leur style, leur manière d'envisager la vie monastique.
Oui, certainement, ce sont des grandes figures intellectuelles, spirituelles, très fortes. Et le rôle accordé à l'abbé par la règle fait que s'ils ont un certain charisme, ça ne peut être que bénéfique pour la communauté. Dans le cas contraire, une crise abbatiale est toujours un moment extrêmement difficile, même à ces époques-là, évidemment.
C'est une abbaye riche ?
C'est une abbaye très riche, très riche.
D'où tient-elle ses richesses ?
De ses biens temporels, de ses donations au départ et de la capacité qu'ont Cluny, mais la plupart des monastères d'ailleurs, à faire fructifier de toute façon la terre. C'est un peu les entreprises du CAC 40 de l'époque, si je peux me permettre ce parallèle un peu trivial.
Alors, une abbaye très puissante, très riche, à la tête de laquelle on rencontre des personnalités un peu hors normes, et pourtant des crises et une volonté de réforme.
Oui, alors effectivement, on fait allusion à ce qui se passe au XIIe siècle, c'est-à-dire à cette émergence de réformes monastiques cisterciennes pour la plus connue, mais pas seulement cisterciennes.
Donc Bernard de Cîteaux.
Voilà, avec Bernard, mais pas seulement, avec aussi une influence un petit peu de certains courants érémitiques qui jouent beaucoup, par exemple en Italie, sur les Camaldules, les Valombrosiens, et sur la Grande Chartreuse. Alors, la réforme, c'est pas de la nouveauté, ça se veut un retour à la règle, aux principes fondamentaux. Et en termes d'humilité, de pauvreté, de travail manuel sans doute, d'office divin un peu épuré, c'est-à-dire respectueux du modèle proposé par Saint-Benoît, parce que Saint-Benoît, dans sa règle, donne le déroulement de chacun des offices, se fait très précis, tout en disant dans sa sagesse extraordinaire, si vous trouvez mieux, ça peut le faire aussi, il n'y a aucun souci. Donc, mais c'est toujours ça, Saint-Benoît, c'est ça. Tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un refus d'une certaine affirmation de richesse qui faisait peut-être oublier un petit peu la pauvreté telle qu'elle était envisagée dans la règle.
Parce que c'était la tendance ?
Parce que c'est la tendance, parce qu'une communauté monastique, si elle marche bien, et ça c'est sur toutes les périodes, Et donc, si elle doit vivre de son travail, elle est à la fois quelque part une entreprise économique et à la fois un but spirituel évident. Donc, au milieu de tout ça, il faut trouver un équilibre. Et je pense que Cluny, comme à d'autres périodes, d'autres communautés, peut-être même à l'heure actuelle, peuvent avoir du mal et peuvent se laisser embarquer, entre guillemets, dans des directions qui l'éloignent ou qui peuvent éloigner de la règle.
Vous avez parlé de l'apparition de l'ordre. Est-ce que c'est aussi à cette période-là qu'on voit apparaître les congrégations, justement, ces différentes familles qu'on connaît encore aujourd'hui, Subiaco, les Olivetins
Oui, alors voilà, c'est pas encore tout à fait le cas. C'est-à-dire que Citeaux se considère effectivement est une famille constituée. C'est Cluny, mais encore plus constituée, encore plus charpentée autour d'un chapitre général, autour de visites, de pratiques des visites dans tous les monastères. Ça, c'est évidemment quelque chose qui fédère, qui fait que là, par contre, on peut s'éloigner un petit peu de la règle, c'est de dire qu'il y a les abbés, effectivement, mais il y a les visiteurs et il y a un chapitre général. Donc, il y a quand même une hiérarchie et une organisation de la gouvernance qui est appelée à avoir beaucoup de succès par la suite. Ensuite, vous avez des familles qu'on peut appeler congrégation ou ordre, ça, les Olivetins, effectivement, on parlait des Camaldules, puis plus tard, donc les Olivetins, ces ordres-là, où ces familles-là apparaissent plus ou moins au moment où se développent les ordres mendiants. Les ordres mendiants, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose que la règle de Saint-Benoît. C'est vraiment différent. C'est pas la même finalité. C'est pas le même sens de la vie contemplative. C'est autre chose. Et à ce moment-là, on peut commencer à dire qu'il y a, je dirais pas un ordre bénédictin, mais qu'il y a vraiment un groupe qu'on aurait tendance à appeler ordre, mais qui n'en est pas un, puisque sinon on a tendance à penser que les bénédictins deviennent les moines noirs, et on oublie que les cisterciens sont aussi bénédictins que les bénédictins, comme on dit, les clunisiens, ou que c'est pareil, c'est deux familles différentes, mais c'est la même fonction. Et là, on a vraiment deux choses différentes, et je pense qu'à partir du XIIIe siècle, les ordres mendiants, leur organisation qui est par province, qui est centralisée, va avoir beaucoup d'influence. Par contre, cette organisation va influencer beaucoup l'organisation du monde monastique bénédictin de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne.
Daniel Audon-Hurel, pour faire la transition avec le Moyen-Âge et pour conclure cette période, on a quelquefois l'idée en tête que le Moyen-Âge, c'est vraiment l'apogée du monachisme. Son installation, c'est vraiment un mode de vie, non seulement qui a beaucoup d'influence sur la société, mais qui, dans une certaine mesure, la façonne. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce qu'il y a une part de réalité, de vérité là-dedans ?
Non, il y a une part de réalité. Vous l'avez dit vous-même, effectivement, la société est façonnée par la présence monastique parce que les monastères sont extrêmement nombreux. Ça, je ne vais pas vous dire des chiffres.
Ils quadrillent le
territoire. Ils font vivre évidemment des milliers et des milliers de familles. Ils sont à la fois en milieu rural et puis à la fin du Moyen-Âge aussi, on a quand même des monastères en milieu urbain. Donc on est dans une omniprésence des monastères et en particulier bénédictins, évidemment.
Ça correspond à une élite aussi. Ce sont des gens lettrés, ce sont des gens qui ont des connaissances.
Ça, c'est l'image qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens lettrés, mais les millions de moines et de moniales ne sont pas forcément des gens lettrés. Il y a vraiment toute la société présente, sauf que paradoxalement, ce Moyen-Âge monastique, traditionnellement, on dit que c'est l'apogée, ou c'est aussi à ce moment-là, et en particulier, je pense, à partir du XIIIe siècle, où on a certains dysfonctionnements qui sont essentiellement des dysfonctionnements de gestion et économique. C'est-à-dire qu'on oublie que la gestion d'un monastère est une gestion commune, mais qu'on commence à diviser les ressources du monastère en fonction des charges que l'on confie à des moines et qui se retrouve, pour faire simple, un peu tout seul avec ses petits revenus, bon, qui fait vivre le monastère, c'est pas le souci. Et ça, c'est un des facteurs, sans doute, d'éloignement de la vie commune. À partir du moment où il n'y a plus cette gestion commune, évidemment, les intérêts individuels priment sur la communauté. Donc là, il y a un affaiblissement évident et sans doute, dans certains cas, un recrutement, souvent de nature locale. Il se fait autour des mêmes familles. Tout ça vise à écarter un petit peu les moines de la règle. Ils l'oublient un petit peu. Il y a quand même là peut-être un éloignement qui va justifier les réformes après, évidemment.
Les réformes qui interviennent notamment à l'époque moderne ?
Alors, elles interviennent à l'époque moderne, mais une époque moderne qui commence tôt, plutôt au début du XVe siècle, c'est-à-dire où là, il y a une prise en compte, un déclic, en fait, qui se fait par un certain nombre de moines qui disent « Mais attention, là, on se fourvoie, on n'est plus dans la lecture de la règle. » Et aidé par certains conciles, aidé par les papes, soutenu par les pouvoirs parfois royaux aussi, vont s'organiser ce qu'on appelle vraiment à l'époque moderne des congrégations. La plus importante, c'est celle de Sainte-Justine de Padoue, en Italie, au début du XVe siècle, qui va devenir, au début du XVIe siècle, celle du Mont Cassin, parce que le Mont Cassin va la rejoindre, et qui là organise vraiment un chapitre général, des supérieurs qui ne sont plus élus à vie par leur monastère, mais nommés par le chapitre général, et qui détermine là un retour au principe de la règle, ce qui ne signifie pas qu'ils la lisent à la lettre, parce qu'ils vont l'adapter au contexte social, politique.
Mais en essayant d'être fidèle à l'esprit de cette règle.
Au principe, c'est-à-dire l'obéissance, la pauvreté, la conversion des mœurs et la gestion commune, c'est-à-dire la pauvreté individuelle.
On peut dire qu'à peu près tous les monastères bénédictins s'engage dans ce souci de réforme ?
Alors, pas tous.
Où il y a des résistances ?
Alors, il y a des résistances. Si je me projette au XVIIe siècle, mais c'est la même chose, la continuité, il y a des résistances. Par exemple, la congrégation de Saint-Maur, qui est en France la plus connue, hein, qui naît en 1618. Ce sont des jeunes moines. Ils sont formés. Ils sont envoyés dans un monastère où il y a des anciens moines, qui sont là depuis, j'allais dire, des générations, parce que c'est les mêmes familles, parce que... Voilà. Certains d'entre eux ont parfois demandé la venue des réformés, donc des moines de Saint-Maur. Il y a un concordat qui se fait, mais ces gens se retrouvent totalement exclus du lieu dans lequel ils sont depuis des années et des années et des décennies, dans lequel ils ont pris des habitudes, ils ont incarné quand même une vie monastique, qui est réelle, mais qui est évidemment totalement dépassé par la réforme.
Donc des tensions,
donc des refus parfois, donc des conflits, des procès et tout ce qu'on veut. Mais certains de ces religieux qu'on appelle anciens, ils sont mis de côté, ils ont une pension, ils finissent par mourir. Et donc c'est les jeunes qui arrivent là, qui s'installent et qui prennent possession du monastère. Et on a par contre des anciens qui restent très attachés quand même à leur monastère, qui vont aider à la restauration des bâtiments, par exemple, ou surtout à l'église, qui vont acheter des ornements pour l'église, parce qu'eux ont de l'argent, en fait, parce qu'ils ont une pension. Donc, individuellement, ils ont de l'argent. Mais ce qu'il faut dire aussi, et j'en finirai là-dessus, c'est que cette évolution de la fin du Moyen-Âge, qui voit une privatisation un petit peu des espaces et des biens du monastère par les individus eux-mêmes, a transformé aussi l'architecture du monastère. Nous, on a une image, l'église, le réfectoire commun, la salle du chapitre, voilà, les espaces communautaires. Là, ils ont coupé un appartement, une petite maison dans l'enclos, ils se sont complètement divisés. Et les réformateurs du XVIIe siècle, quand ils prennent possession de ces abbayes, vont essayer peu à peu de retrouver la vie communautaire, donc l'architecture qui correspond à la vie communautaire. C'est pour ça qu'ils reconstruisent aussi les monastères. C'est pour ça que vous voyez tant de bâtiments en France monastiques qui sont des bâtiments du XVIIe siècle.
Par exemple.
Ou du XVIIIe. Par exemple, Saint-Vendry, alors par exemple, le Bec-et-Loin, alors Cluny, évidemment, même le Mont-Saint-Michel, là. La Grasse, l'abbaye de la Grasse, par exemple, aussi. Voilà.
Donc c'est ce processus-là qui se met en place.
C'est ce processus-là qui donne cette physionomie que l'on a au XXIe siècle, d'un monachisme bien ordonné, que peut être celui de l'époque moderne.
Vous parliez du XVIIe siècle, et le XVIIIe, c'est le siècle des Lumières.
Oui.
Est-ce que l'effervescence intellectuelle atteint les monastères, et est-ce que ça ferraille aussi de ce côté-là ?
Oui, ça atteint les monastères. Alors d'abord, il y a une tradition qui vraiment est reprise au XVIIe siècle et qui fait que maintenant on parle de travail de bénédictin, qui est une tradition d'étude et de transmission des textes médiévaux et patristiques, qui prend au XVIIe siècle, en particulier en France, dans la congrégation de Saint-Maur, avec des gens comme Mabillon, évidemment, qui est le plus connu d'entre eux, qui est déterminant dans la physionomie que prend ce monachisme. Ils ne prêchent pas, ils ne font pas ou très peu de missions. Donc, il se rend utile à l'Église à travers cette transmission des textes et, comme nous sommes à la période de l'imprimerie, à travers les éditions. de ces textes. Ça, c'est un acquis, ça c'est certain.
Donc de l'exégèse ?
Oui, de l'exégèse, de l'histoire monastique, de l'écriture de l'histoire, de leur propre monastère. Et il y a véritablement un sens, une notion d'utilité. À quoi on sert dans la société ? Et on sert en particulier à cela, à côté évidemment de la prière. Et puis, il y a tout un courant qui finalement n'a pas la même lecture de cette tradition monastique. Et en particulier, c'est effectivement le cas de quelqu'un comme Rancé, qui, dans la famille cistercienne, en plus est un cas particulier parce que c'est un converti, donc on est à la fin du XVIIe siècle, c'est un contemporain de Mabillon, c'est les dernières décennies du XVIIe siècle, c'est un converti, c'est un homme d'absolu un petit peu aussi. Et donc lui va considérer que le moine n'a pas charge d'âme, que le moine est sur terre pour faire pénitence, un point c'est tout, et puis pour se restreindre à lire ce qui est utile pour son propre profit personnel, mais il n'a pas à se lancer dans des études, à publier, à faire de l'histoire. Voilà. On est dans deux cas de figure totalement opposés. Reste que ces deux visions-là nourrissent quand même ce XVIIe siècle spirituel très très fort, et Rancé a un charisme énorme et a beaucoup 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 de succès évidemment. Voilà. Alors tout
auprès
ça,
de qui ?
Ah ben auprès de moines d'autres familles bénédictines, ce qui évidemment crée des tensions énormes parce qu'on est dans un quand même un régime de monachisme concurrentiel là. Il y en a pour tous les goûts, hein, pour dire les choses de façon un peu triviale. Donc effectivement, des moines qui disent ah ben moi je veux entrer à la trappe et je veux quitter Saint-Maur ou je veux quitter la Grande Chartreuse ou je veux quitter telle ou telle famille, ça crée d'énormes tensions. Il a énormément de succès auprès de la noblesse, auprès de la cour aussi. Par exemple, il attire beaucoup parce qu'il est un peu dans son désert et en même temps, il entretient une correspondance avec des centaines de personnes. Donc, c'est assez paradoxal.
Mais voilà, Mabillon est quand même soutenu par le roi, lui,
Mabillon
par le pouvoir aussi.
Oui, mais Mabillon est soutenu par le roi. Mabillon est quelqu'un qui fondamentalement apprécie Rancé. Ça, j'en suis assez convaincu pour avoir travaillé sur les œuvres de Mabillon il y a quelques années. Et je pense que il y a eu des problèmes humains, des problèmes de concurrence, etc.
Mais fondamentalement, ils s'estiment
parce qu'ils suivent tous les deux la règle de Saint-Benoît. Seulement, à côté de la règle, il y a des statuts, des constitutions, des adaptations qui sont différentes, tout simplement.
Mais ce que vous racontez là pour conclure cet entretien est vraiment représentatif de manière globale de cette époque ou bien en gros c'est un épiphénomène ou c'est anecdotique ?
Ah non, c'est représentatif. Je pense que c'est représentatif. On a ces deux courants-là. On les a à l'intérieur même de la famille clunisienne, qu'on oublie un peu au XVIIe siècle mais qui existe toujours, qui se divise un peu en deux observances, l'étroite et l'ancienne. Donc celle qui est plus proche de la réforme et l'autre, sitôt en dehors de Rancé et aussi divisée en deux observances, un petit peu de cet ordre-là. Et pour finir peut-être là-dessus, mais je pense qu'il faut en reparler aussi, c'est la place de la moniale. Elle est essentielle et au XVIIe siècle se lit vraiment, je crois, un monachisme au féminin.
Daniel Audon-Hurel, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des moines, mais il y a aussi des femmes qui vivent cette vie bénédictine et qui suivent la règle de Saint-Benoît, des moniales, qui ont une vie semblable à celle des hommes, qui se calquent sur le même rythme, sur les mêmes objectifs. Ces moniales, proportionnellement, elles sont beaucoup moins importantes en nombre ou bien finalement ça s'équilibre ?
Ah, elles sont très très nombreuses. Dès l'origine, elles sont présentes. La vie de Saint-Benoît parle de scolastique.
Sa sœur.
Certes, la règle, elle, est écrite au masculin. On ne parle pas de voile, on ne parle pas d'habits spécifiques pour les femmes dans la règle de Saint-Benoît. Et là, on se retrouve dans la situation traditionnelle de l'Église, qui est quand même gérée par des hommes, avant tout, même si certaines femmes et certaines moniales ont été particulièrement brillantes et importantes.
Et évidemment, ont marqué l'histoire.
On peut citer Hildegarde de Bingen, comme on pourrait en citer d'autres, et en particulier à l'époque moderne. Mais ce qui est certain, c'est que ce monachisme féminin, il est différent parce qu'il est marqué, et en particulier à l'époque moderne, plus qu'avant peut-être, par une réaffirmation de la clôture. La clôture masculine et la clôture féminine ont un certain nombre de points communs, évidemment, mais elle est beaucoup plus marquée chez les femmes.
Pourquoi ?
Ben parce que les femmes sont plus vulnérables, parce que il faut les voilà
les protéger.
Il faut peut-être oui sans doute les protéger parce qu'elles sont sans doute
protéger pas les assez, autres de
protéger,
leur présence.
Oui, on peut imaginer tout ce qu'on veut et vous le faites et effectivement vous avez raison. Elles sont sous le contrôle masculin de toute façon dans l'Église et alors à l'intérieur du monastère, comme elles sont beaucoup plus enfermées tout simplement que les contemplatifs, que les hommes, dès lors elles ont un rapport à la vie spirituelle, je pense, qui est différent. Un rapport aussi au monde qui est différent. Un exemple de cette clôture différente, par exemple, il y a quelques chartreuses féminines à l'époque moderne et elles sont organisées pratiquement comme des monastères de femmes bénédictins ou cisterciens et pas comme des chartreuses d'hommes avec des petites maisons, les petites cellules comme à la Grande Chartreuse. Elles ont une vie communautaire et autour d'elles vivent quelques chapelains qui les encadrent évidemment parce qu'il faut des prêtres, il faut des confesseurs, ce qui n'empêche que certaines moniales et supérieures évidemment des monastères, suivant la règle de Saint-Benoît, devaient diriger et enseigner, parce qu'elles ont la charge des âmes de leurs filles, prennent une importance au sein du monastère et dans l'environnement. Et au XVIIe siècle, par exemple, vous avez la fondatrice des bénédictines du Saint-Sacrement, Catherine de Bar, qui est une directrice spirituelle à l'époque aussi. Elle est à Paris. À Paris, elle est véritablement directrice spirituelle, y compris de femmes du monde et y compris de certains prêtres ou laïcs. C'est rare, mais ça existe. Donc, il y a quand même cette affirmation d'un monachisme au féminin, mais toujours beaucoup plus sous contrôle.
La Révolution française marque un coup d'arrêt dans la vie bénédictine en France.
Oui, comme dans la vie de tous les ordres religieux, de toute façon. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Sinon, c'est une vraie rupture. Ça, c'est une évidence.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
On quitte le monastère, évidemment. Les vœux monastiques n'existent plus. On réunit les moines dans des monastères. Après, ils choisissent un petit peu ce qu'ils vont faire. La rupture est totale chez les hommes, qui finalement, pour beaucoup, intègrent la vie civile sans trop de difficultés.
Certains s'exilent ?
Certains s'exilent, bien entendu. Certains passent à la guillotine aussi. Hein. Mais d'autres aussi vont devenir, par exemple, les maires de communes après la Révolution. Certains vont devenir responsables des bibliothèques municipales qui s'organisent. Évidemment, quand un moine d'un grand monastère urbain gérait une grande collection de livres, il va de soi que quand se créent les premières bibliothèques communales pendant la Révolution et juste après...
On lui confie la tâche.
Eh ben, on le confie la tâche parce qu'ils savent le faire, tout simplement. Par contre, on le voit et on le verra lorsque Don Guéranger, dans les années 1830, met au point son projet monastique. Il va voir les anciens bénédictins à la congrégation de Saint-Maur, le courant ne passe pas. Donc c'est un autre monde. Par contre, les moniales sont sans doute peut-être plus attachées à leur vie monastique pendant la Révolution. Et là, on a des glissements pendant la Révolution, vie cachée, etc. Et hop, on ressort juste après, comme si on essaye de restructurer la communauté comme elle l'était avant la Révolution. C'est extrêmement intéressant.
Alors justement, à quel moment les moines et les moniales peuvent-ils réintégrer leur vie monastique et les lieux qui ont été désertés juste après la Révolution, enfin pendant la Révolution ?
Alors, ils vont pas forcément réintégrer les mêmes lieux, puisque de toute façon, les mêmes lieux ont été vendus. Donc, ils se retrouvent en général dans des lieux abandonnés. Chez les moniales, vont se reconstituer des communautés dans les mêmes villes, parfois, où
à
elles
quelle
étaient
période,
avant.
Alors,
au tout début du 19e siècle, sous l'Empire, progressivement. Chez les hommes, vont apparaître des projets nouveaux. Et les deux projets nouveaux bénédictins de tradition bénédictin noire, on va dire, c'est Don Guéranger dans les années 1830 et un peu plus tard, Muard avec la pierre qui vire, en France.
Quand vous dites des projets, ça veut dire la construction d'un nouveau monastère ?
La création ex nihilo,
hein.
Soit la...
C'est pas la reconstruction, c'est pas...
C'est entre une nouveauté, ce qui est le cas de Muard et de la pierre qui vire, c'est un projet monastique vraiment neuf.
Et Solesmes.
Et Solesmes qui se veut plutôt intégrer une tradition qui serait la tradition de Cluny et des bénédictins de Saint-Maur dont on parlait précédemment, de Mabillon. Là, on a effectivement avec Don Guéranger une volonté de s'insérer un petit peu plus dans une tradition tout en y mettant beaucoup de pragmatisme aussi et puis de personnalité parce que lui-même, il est d'abord prêtre diocésain avant d'être moine. Enfin, je veux dire, voilà, il n'est pas moine avant d'être prêtre. C'est l'inverse. Donc, il est formé au séminaire au départ.
Il a une vocation monastique
Il a une vocation monastique qui naît au séminaire progressivement. Parce que il a manifestement été très marqué par toute la production intellectuelle des bénédictins de Saint-Maur du XVIIe siècle, c'est-à-dire de Mabillon et de ses petits camarades. Il va très vite comprendre, et sa correspondance est passionnante à ce sujet, c'est qu'il va très très vite comprendre qu'on n'est pas moine forcément parce qu'on est savant et on n'est pas savant. Enfin, la vie monastique, c'est autre chose que de faire des savants. C'est là où il est très pragmatique et où sa pensée évolue, tout en réaffirmant un traditionnel attachement à Rome, qui est très monastique, ça, qui est très traditionnel dans le monachisme, et puis un développement de la liturgie, et donc ça aussi, ça renvoie complètement à la règle de Saint-Benoît.
Donc là, on est aux alentours des années 1830.
Des années 1830, ouais, 1830.
Et l'objectif 1860. De Don Guéranger, qu'est-ce que c'est ?
À Solesmes, c'est de recréer. Donc lui, il rachète un lieu monastique qui était en vente, hein, qui était un petit prieuré des bénédictins de Saint-Maur. Donc il le rachète, donc il installe là au départ sa communauté. On n'est pas du tout dans le bâtiment que l'on voit maintenant, évidemment.
C'est très modeste.
C'est évidemment modeste.
Combien
sont-ils comme ça. Une poignée,
poignée,
je crois.
Mmh.
Une poignée, ils sont vraiment peu nombreux. Et il va avoir du mal à diffuser, à essayer. On lui propose Cluny, il ne veut pas prendre Cluny. Il va avoir du mal à se développer, parce que ce n'est pas si simple que ça, en fait, de restaurer ce monachisme bénédictin des siècles précédents. Une abbaye va être très importante, par exemple, c'est Ligugé qui va renaître comme ça, Saint-Vendry va renaître, et peu à peu le monastère parisien qui existe toujours.
Un mot quand même sur la liturgie de Solesmes,
oui.
Avec la redécouverte du grégorien, c'est important ça.
Oui, bah, c'est un peu la marque de fabrique Solesmes pour le 19e siècle, depuis, hein, c'est extrêmement important. C'est effectivement la redécouverte du chant grégorien, comme chant authentique de l'Église, on va dire. Hein, c'est comme ça qu'il le voit et c'est comme ça que par la suite aussi la papauté le réaffirme très nettement. Les papes de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et encore jusqu'à Benoît XVI, réaffirment l'importance de ce chant grégorien comme chant de l'Église. Et ça, on le doit évidemment énormément à Don Guéranger, qui est un peu l'instrument pour ça de Rome, enfin, qui œuvre énormément dans ce sens, dans le sens d'une redécouverte et d'une mise en œuvre d'un chant liturgique authentique.
Daniel Audon-Hurel, le 19e siècle est donc marqué par la figure de Don Guéranger, qui est un de ceux qui ont œuvré à la réapparition, à la restauration des bénédictins après la Révolution. Vous avez également parlé de notre axe, je ne sais pas comment dire, une autre sensibilité, une autre tendance qui est celle de la pierre qui vire. En quoi est-ce qu'elle est représentative de ce renouveau, de cette vitalité retrouvée des bénédictins ?
La pierre qui vire, c'est le père Muard. C'est une vision assez différente.
Dans le Morvan.
Dans le Morvan, oui. Peut-être plus proche d'une tradition de simplicité cistercienne. Un monachisme plus tourné, me semble-t-il, vers l'extérieur, assez proche de la tradition cistercienne en termes de simplicité. C'est ce qui apparaît, je trouve, encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Peut-être un peu plus moderne, d'une certaine façon aussi. Et la pierre qui vire s'est raccrochée, en fait, à la congrégation de Subiaco, qui est une de ces nombreuses congrégations qui, au XIXe siècle et depuis, par exemple, sont multinationales, ce qui n'est pas le cas de Solem, qui est une congrégation qu'on appelait avant Congrégation de France, d'ailleurs, qui est une congrégation plutôt installée à partir de Solem et qui n'appartient pas à un réseau plus important. Mais ce qui correspond aussi, il n'y a pas que la pierre qui vire et Solem, on a le cas aussi de la congrégation de Boyron, qui est très importante, qui est née par des liens avec Solem, mais qui a donné par exemple l'abbaye belge de Maretsou, qui est très connue, et qui a été un lieu extrêmement important pour en particulier l'exégèse biblique et les travaux intellectuels très très importantes, et qui a publié la revue Bénédictine, par exemple, qui la publie toujours d'ailleurs. Il ne faut pas se focaliser non plus sur le cas de Solem et de la pierre qui vire. Il y a autre chose en Europe à la même période, évidemment. Et puis, il y a aussi le monde cistercien, qui aussi, lui, se réorganise au XIXe siècle. Il y a les trappistes de la Trappe, après une grande histoire avec un abbé qui s'appelait Augustin de Lestrange, qui a parcouru un peu l'Europe pendant la Révolution et après. Et les cisterciens se réorganisent aussi progressivement, ce qui fait qu'à la fin du XIXe siècle, en tout cas en France, on a deux grosses familles cisterciennes, on va dire. On a Solem, on a la pierre qui vire, et puis on a aussi les bénédictines du Saint-Sacrement, qui sont réapparues et qui se sont développées, les bénédictines du Calvaire, fondées par le Père Joseph au XVIIe siècle, et qui, au XIXe siècle, aussi ressurgissent, et puis des nouvelles familles comme Pradines, par exemple, qui sont des familles récentes, elles, par contre, qui vraiment surgissent au XIXe siècle, mais qui s'accrochent à cette tradition bénédictine très forte.
Et en Calcate ?
Et en Calcate, ça va avec la pierre qui vire. C'est le même mouvement. C'est la même famille.
Alors, cette diversité de familles, de sensibilités, d'après vous, est-ce que c'est une richesse ? Ou bien est-ce que c'est compliqué à gérer, compliqué de s'accorder, d'être bien sûr qu'on est tous à peu près sur la même longueur d'onde et qu'on est tous fidèles à l'esprit d'origine.
Je pense que c'est plutôt cette diversité, elle est signe d'enrichissement, évidemment, et surtout qu'à l'heure actuelle, il y a des lieux de rencontre entre en particulier les jeunes de ces différentes familles, entre familles monastiques, il y a des moments et des lieux de rencontre. Ça a été facilité aussi, ces rencontres-là, par l'abbé Prima, qui est créé à la fin du XIXe siècle par Léon XIII. Et Léon XIII, finalement, il réalise, c'est un peu le fruit d'une forme un petit peu de mondialisation, c'est-à-dire que le monachisme bénédictin suit l'histoire du monde et suit les évolutions politiques du monde. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, par exemple, des moines partent aux États-Unis, partent au Canada, créent des monastères. Il y a très, très grands monastères.
Et des fondations.
Et des fondations qui sont issues de l'Europe. Après, il y a donc les empires coloniaux. Il y a aussi des fondations de monastères européens.
Et où on s'est vraiment mis autour de la table pour inventer quelque chose de nouveau. Je pense à Tamier, par exemple.
Oui, il y a ça sur le plan à la fois liturgique, d'organisation même du monastère, de rapport à l'autorité à l'intérieur du monastère. Là, il y a des évolutions qui sont très fortes dans les années post-Vatican II. Peut-être on peut y voir même une influence de mai 68 pour les années 70. Il y a aussi des transformations liées aux demandes d'accueil spirituel aussi. On sait que les hôtelleries ont pris beaucoup de place ces dernières décennies. Ça touche tous les monastères, malgré, paradoxalement, des difficultés de recrutement bien souvent. Et puis, ce qui va jusqu'à la question de l'intrusion, par exemple, d'Internet et des nouveaux médias à l'intérieur du monastère, qui pose énormément de problèmes, parce qu'il y a un chapitre de la règle de Saint Benoît qui indique qu'on ne peut recevoir de lettres de l'extérieur, de cadeaux, et on ne peut écrire
sans en référer
à l'abbé, enfin au supérieur, enfin donc il y a tout un système à l'intérieur de communication là-dessus. Les monastères ont un site internet maintenant. Certains ont des pages Facebook. La France est pas très ouverte à ça par rapport à d'autres, mais Solesmes a une page Facebook depuis pas longtemps. Le Barou a un site incroyable. Il a même une application pour les téléphones mobiles, je crois.
Donc ça demande vraiment de s'interroger à la proportion que l'on accorde à ces nouvelles technologies, à la place qu'on leur donne dans un monastère.
Qu'on leur donne pour vivre économiquement, soit
parce qu'il le faut.
Ça a toujours été le cas. Pour vivre spirituellement sa propre vie de moine et de moniale dans un esprit de séparation du monde, ça c'est absolument fondamental, c'est-à-dire cette espèce de clôture intérieure qui est nécessaire. Comment le vivre et être présent au monde malgré tout, quoi.
Une question sur l'adaptabilité de la règle de Saint-Benoît. Cette règle, elle existe toujours. Des moines et des moniales partout dans le monde en vivent toujours. Elle est adaptable à l'infini, cette règle ?
Ah oui, je suis persuadé. Parce qu'elle est d'une vérité, d'une honnêteté, d'un discernement,
d'une justesse,
d'une humanité qui est, et là c'est quand même l'historien qui parle, je vous rassure, qui est réelle. Et donc à côté de ça, ce sont effectivement au fur et à mesure du temps, à chaque période, il y a eu des textes complémentaires qui s'appellent des statuts, des constitutions, des règlements, des coutumiers, hein, qui permettent de l'adapter à des moments et à des lieux. Et Benoît parle pour l'habit, par exemple. Il dit qu'il faut s'habiller de telle façon et telle façon, mais on s'adaptera au lieu. Donc cette adaptabilité-là est réelle.
Et c'est ce qui fait sa force.
Et c'est ce qui fait sa force, certainement.
Une dernière question que je n'ai pas eu le temps de vous poser avant. On dit quelquefois que les moines ont inventé la démocratie. Bon, certains y avaient pensé un peu avant eux, mais ils l'ont mise en pratique. Vous, historien, qu'est-ce que vous en pensez ? À travers l'élection de l'abbé, par exemple.
Alors, je ne parlerai pas de démocratie, mais il y a un véritable travail de construction d'un système qui permette une légitimité spirituelle, bien sûr, mais pas seulement spirituelle, une légitimité de l'autorité, et après des circuits de communication internes et des responsabilités de chacun qui permet, grâce au Conseil des Frères, c'est-à-dire au chapitre, de pouvoir recueillir pour l'abbé l'avis des uns et des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on vote pour une majorité ou une autre, pas du tout. Donc c'est pas de la démocratie.
Mais on a le voix au chapitre.
La voix au chapitre, ça veut dire l'abbé, pour des questions importantes, rassemble le conseil, par exemple, mais c'est lui qui décide après. L'idée à la base, c'est ça quand même. Il n'y a pas de candidat à l'abbatia, ça n'existe pas. C'est comme à Rome, il n'y a pas de candidat pour le conclave. Enfin, ça, c'est pas possible, ça. Ça serait tout sauf de l'humilité, donc ça pourrait pas.
Un très grand merci, Daniel Audon-Hurel, de nous avoir donc parlé de l'histoire des bénédictins. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'études sur les monothéismes. Vous êtes spécialiste de l'histoire du monachisme et de la règle de Saint-Benoît, et plus particulièrement au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Encore un très grand merci à vous.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et merci à Pierre-Henri Paget qui a assuré l'enregistrement de ces entretiens et à Elisabeth de Monclos qui m'a aidé à les préparer.